on accueille Hélène qui vient nous parler de la soirée de ce vendredi. Ce vendredi, là, le 9, à Faux-la-Montagne, une soirée en soutien à un habitant de la montagne Limousine qui, pour un tag, a écopé lors d'un premier passage au tribunal d'une amende d'environ 17 000 euros, juste pour le tag, et 4 mois de prison avec sursis. Salut Hélène.
Salut Lorraine.
Comment vas-tu ?
Très bien, très bien. Oui, oui.
Tu fais partie des organisateurs de cette soirée ?
Oui. Donc voilà, on a décidé de se mobiliser pour cette histoire un peu malheureuse, même un peu juste injuste, même pour être exact. Donc pour rappeler un tout petit peu les faits, même si on va avoir un document là, je pense d'une quarantaine
oui,
de minutes qui va en parler.
Tout à fait.
Voilà. Donc ça sera beaucoup plus précis que ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais en tout cas, il s'agissait en fait d'une action collective qui a été faite fin janvier 2016 à Limoges. Il y a eu moult tags qui ont été faits effectivement dans le parking Vinci. Donc c'était une opération parking gratuite pour protester en fait contre le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc cette personne a pris en fait pour tout le monde. Donc on essaye de... En fait, les 17 000 euros dont il est aujourd'hui pas accusé, enfin en tout cas ce qu'il doit...
Plus ou moins redevable.
Plus ou moins redevable, ouais. C'est en gros le devis en fait de peinture du parking.
Ça doit être un très très grand parking, non ?
Oui, c'est un parking souterrain d'une taille certaine, effectivement.
17 000 euros de peinture quand même.
Voilà. Et donc tout l'enjeu en fait c'est à la fois de replacer en fait l'action dans son contexte, que c'est une action collective. Et donc qui n'a pas à prendre pour nous, pour tout le monde. Mmh. Et puis aussi du coup, qu'on aille du coup questionner en fait cette loi. En fait, c'est une loi qui rend solidaire une personne qui a fait un tag. Donc il y a eu des jurisprudences pour le coup au niveau de la RATP, SNCF, où une personne qui était prise à faire un tag en fait dans le métro par exemple prenait pour tous les petits copains qu'on fait dans le métro.
Tous les tags qui étaient dans le métro, ouais. Peu importe donc la date à laquelle ils ont été
voilà,
faits.
Voilà, c'est ça. Il y a eu des tentatives pour mettre sur le dos tout le monde. Voilà. Donc il y a une petite loi comme ça qui existe. Et donc c'est ça que nous remettons en cause et en jeu donc le 3 février, puisque nous faisons appel. Ça aura lieu le 3 février à Limoges.
Et pour la soirée de soutien de ce vendredi, donc il va y avoir plein de concerts, ouais. Il va aussi y avoir en début de soirée une discussion peut-être
Oui, donc il y aura une discussion publique à 19h, donc dans la salle municipale de Faux-la-Montagne, pour du coup expliquer donc ce qui va se passer le 3 février, la procédure judiciaire, et aussi en fait se rallier à des jeunes filles qui ont été prises pour des tags également à Limoges, également avec des tags qui sont donc sur la question de Notre-Dame-des-Landes. Et l'idée, en fait, c'est de se rallier, en tout cas, à leur cause et de les aider également. Donc, eux, ils font une soirée également de soutien le lendemain, le 10 décembre, à Limoges. Et elles seront sur place donc au moment de la réunion. Et ça sera le moment donc de combiner, en tout cas, nos efforts et de faire entendre notre voix.
Elles sont déjà passées en...
Elles passent le 31 janvier en D'accord. procès. Donc, comme l'appel est le 3 février... à Limoges, donc pour notre cas présent, et bien voilà, nous allons essayer d'unir nos efforts. Voilà.
Bon, ça c'est pour le caractère sérieux et nécessaire de la soirée.
Et puis je pense que le document que vous allez entendre sera beaucoup plus précis que ce que je viens de vous dire.
Je le confirme.
Tout à fait.
Du coup, ça fait que on va pouvoir passer au caractère festif.
Complètement.
De ce qui nous attend vendredi.
Et alors, 17 000 euros, c'est beaucoup. On ne sait toujours pas et on espère qu'il n'y aura pas cette somme à payer. Mais en tout cas, pour mobiliser, rien de tel que la fête et qu'un bon concert. Et pour le coup, il va y en avoir trois. Donc, il va y avoir Crut, qui nous vient d'Aubusson, qui est plutôt rock'n'roll. Et ils sont passés à la fête de la montagne limousine le vendredi soir. Et puis, ben voilà, pour nous, c'était assez important qu'il y ait quelqu'un voilà, qui joue localement. Et ils ne sont pas encore trop joués sur le plateau. Donc, on les a fait bouger d'Aubusson jusqu'à nous.
Cool, une bonne occasion de les découvrir du coup.
Tout à fait. Et puis ensuite, il y aura du rap, une fois n'est pas coutume, puisqu'on a l'habitude d'entendre du rock, du noise, etc. Et mes petits comparses étaient très contents de savoir qu'il allait avoir des paroles françaises qu'on allait pouvoir comprendre. Et les chevaux hongrois nous viennent de Grenoble, Lyon. Et donc ils se définissent comme faisant du rap néfaste à tendance tropicale.
Voilà. C'est tout un programme.
C'est tout un programme. Et donc, il y a deux MC et un DJ. Donc, il y a Mouda et Roland Furieux pour les MC. Et puis, DJ Bofa pour les DJ. Et c'est des copains de radio. Vous pouvez les entendre, en fait, en ce moment même sur Radio Canu. C'est complètement fou. Tous les jeudis, de 17h à 18h. D'accord. Ils ont une émission qui s'appelle Intrinsèque, où ils font du flow, micro ouvert.
Donc, jeudis, une heure de
ouais.
Live.
Oui, c'est ça. Et je vous invite à aller les écouter. Et puis, ensuite, on a Sheriff Mouloud et El Zororoco, comme mon accent espagnol est parfait, n'est-ce pas ?
C'est magnifique. Comment ils ont même pas besoin de se définir, eux ?
Ouais, ils sont complètement dingues. Ils sont complètement fous. On peut dire que c'est les exorcistes du garage punk. Ils vous amènent jusqu'à eux, comme ça. Et puis, en fait, ils vous font un petit numéro de charme. Et après, ils sont complètement diaboliques. Ils sont diaboliques.
Complètement voilà. Diaboliques. On va peut-être on va les écouter. C'est Sheriff Mouloud et El Zorro Loco. Le morceau, c'est La Granja. Et je crois bien que c'est une reprise. Enfin, ça sonne comme un truc qu'on a déjà entendu vaguement.
D'accord.
C'est parti. C'était donc Shérif Mouloud y El Zorro Loco, la granja.
Oui, la fièvre, quoi. On a bien senti la chaleur, là. Hein oui.
Merci. En fait, tu parles très bien espagnol.
Ah oui?
Bah oui.
D'accord, super.
Super.
Et bah, on va rappeler les choses très importantes à savoir pour ce week-end, donc il faut venir.
Pour ce vendredi.
Oui, ouais. Pour ce vendredi. Merci Lorraine.
De rien.
Donc c'est demain, vendredi, à 19h, réunion publique pour tout savoir sur l'affaire, où est-ce qu'on en est, etc. Suivi d'une soupe pour ravir nos estomacs dans la fraîcheur de la nuit, pour attendre le concert qui aura lieu à 21h. Et donc, on commence par Krut, puis les chevaux hongrois. Et c'est difficile à dire hein, quand on n'aime pas faire de fautes d'orthographe. Et ensuite, Shérif Mouloud et El Zorro Loco. Voilà. Et pour clore tout ça, en fait, il y a des petites pépites. C'est qu'on vous a préparé 3 concerts, mais il se passe beaucoup d'autres choses. Donc tous les gens qui organisent, ils se sont amusés à tirer au sort des thèmes pour faire des tours de DJ. Avec des thèmes aussi ridicules que chaussettes,
tong.
Ou piscine à bulles, ou tong, ou robot. Et je vous invite aussi à découvrir du coup des interplateaux furieux. Quoi. Et puis, que vous dire d'autre ? Voilà, prévoyez des bonnes chaussures pour danser sur le parquet, quoi. Donc on va peut-être écouter le document qui est...
Ouais. Alors en fait, donc, ce document, ça a été enregistré et réalisé lors de la fête de la montagne Limousine, donc, qui avait lieu en septembre dernier. Et le sujet, c'était un peu les grands travaux inutiles, type aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et la répression des actes contestataires qui étaient liés donc, soit à ces grands travaux inutiles ou encore à d'autres grandes lois inutiles, par exemple. Mmh. Et donc... Voilà, vous allez pouvoir découvrir ça tout de suite. Et du coup, on se retrouve en septembre à La Nouaille, lors de la fête de la montagne Limousine. À tout à l'heure.
Donc vous êtes toujours sur Radio Vassivière, en direct de la fête de la montagne Limousine à La Nouaille. Et donc là, nous avons deux invités, Antoine et Camille, qui vont nous parler de Notre-Dame-des-Landes. Actualité brûlante.
Donc on puisse dire, ouais.
Antoine, toi, tu voulais dire un peu, tu avais un peu des nouvelles de ce qui se passait en ce moment. On a entendu pas mal de rumeurs et peut-être c'est bien d'avoir des infos un peu fraîches et
peut-être
directes.
Je vais commencer par faire le point en remontant un peu le temps, un tout petit peu, pour savoir où est-ce qu'on en est, dans quel contexte, etc. Juste pour commencer par la fin. Le gouvernement a annoncé qu'il procéderait à l'expulsion de la ZAD au mois d'octobre de cette année. Et donc c'est ce qui ce contre quoi les gens se préparent en ce moment sur la ZAD et dans tous les comités de soutien à l'échelle nationale, internationale, c'est l'éventualité d'une nouvelle tentative d'expulsion de la zone, comme il y a eu en 2012 au moment de l'opération César, qui avait été fort heureusement un échec au niveau de l'expulsion, puisque les gens avaient résisté vaillamment pendant plusieurs semaines et que ça s'était terminé par une manifestation monstre de 40 000 personnes qui étaient venues avec des cabanes préconstruites pour reconstruire ce qui avait été détruit au cours de la tentative d'expulsion. Et alors, donc pour remonter un peu le temps, comme je disais, en 2012, ils n'ont pas pu expulser. C'est resté plutôt le statu quo pendant 4 ans. Et Manuel Valls a commencé, il y a quelques mois, à réannoncer qu'il procéderait à l'expulsion de la zone. Et donc, notamment, il y avait une idée, puisque certaines autorisations ou certaines possibilités d'expulsion se dessinaient, puisque certains habitants devenaient illégaux au mois de janvier, le gouvernement voulait intervenir à ce moment-là. Il y a eu une nouvelle mobilisation en janvier pour défendre la zone, avec notamment de... plusieurs opérations de blocage, plusieurs opérations de que ce soit juste à côté de la zone ou à Nantes, et plusieurs mobilisations assez importantes, plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, et donc il n'y a pas eu d'expulsion à ce moment-là. Et depuis lors, Manuel Valls n'a cessé de répéter que pour la ZAD, c'était référendum en juin, expulsion en octobre. Alors le référendum, c'est l'idée qu'ils ont sorti de leur chapeau pour mettre en scène une parodie de démocratie dans un contexte où on sait bien que la grande majorité des gens ne veulent pas de cet aéroport, mais ils ont sélectionné la zone dans laquelle les sondages donnaient le oui à l'aéroport vainqueur, c'est-à-dire essentiellement Nantes et puis les abords immédiats de la Loire-Atlantique. Et le résultat du référendum, ça a été à 55% que Du coup.
Oui, on peut dire que ça concernait pas uniquement la Loire Atlantique de fait.
De fait, ça concerne le Grand Ouest, la Bretagne
en général, voilà. Voilà. Bretagne et puis un bout des pays de la Loire, enfin en termes administratifs en tout cas.
Puisqu'il prétend être un aéroport international, il faut peut-être même que ça concerne l'ensemble du pays. Mais c'était une précision importante, oui. Et donc bon, on va dire que Louis l'a emporté de peu. Finalement, 55-45, l'érection du mouvement
oui,
collectivement,
énorme,
ça a été de dire oh, bah finalement, c'est plutôt non quand même, hein. Presque la moitié. Sachant que le mouvement d'opposition, depuis le début, depuis l'annonce de ce référendum, a expliqué que déjà tous les arguments par rapport à l'absurdité du projet d'aéroport avaient déjà été avancés maintes fois, que la seule chose qui justifiait c'était éventuellement la mégalomanie et des histoires de gros sous. Par ailleurs, il y avait d'autres possibilités alternatives qui sont mises en avant depuis des années. Dans l'intervalle, il y a aussi une espèce de commission guidée par la ministre de l'Environnement, qui était Ségolène Royal à l'époque, qui a sorti que justement, peut-être bien, en fait, c'était pas du tout utile de faire Notre-Dame-des-Landes. Mais malgré tout, ils insistent et ils veulent toujours faire cet aéroport. Et donc, Manuel Valls, ayant annoncé qu'il y aurait des expulsions en octobre et l'ayant répété encore après le référendum, disons que les. Tout s'accélère un petit peu en ce moment et tout le monde reste sur le qui-vive. Il y a quelques informations concordantes qui laissent à penser que notamment la préfecture de Loire-Atlantique vient d'éditer un arrêté, alors ce serait cocasse si c'était pas dramatique pour ces pauvres petites bêtes, l'arrêté autorise la destruction du campagnol amphibie. Le campagnol amphibie étant, une petite bête, un campagnol, mais qui a cette capacité d'être, cette spécialité d'être amphibie et qui est une espèce protégée. Et donc en autorisant sa destruction, la préfecture considère que c'est plus une espèce protégée et que donc on peut faire les travaux, alors que le fait de ne pas pouvoir le détruire, ça a empêché de commencer les travaux puisqu'il aurait fallu, par mesure de compensation environnementale, retarder le début des travaux. Et ils ont jusqu'au 31 octobre pour commencer les travaux. Parce qu'après le 31 octobre, c'est une autre séquence qui s'ouvre, qui est aussi liée aux questions de compensation écologique et de déplacement des espèces. Ils peuvent plus déplacer les espèces après le 31 octobre. Donc ils ont cette fenêtre-là, et ils vont pas non plus tenter d'expulser juste avant les présidentielles, parce que ça mettrait beaucoup trop de bazar dans le pays, et je pense qu'ils ont peut-être suffisamment vécu de bazar dans les mois passés.
Donc, et comme on est à un an et demi de l'échéance...
Un an et demi, on est à peine plus de 6 mois.
Non, 6 mois.
Ah oui, oui.
Mai 2017.
Ah oui, c'est vrai.
Et un deuxième signe, c'est que l'ensemble des forces de l'ordre se sont vus interdire de prendre des vacances avant la fin octobre également. Donc ce qui laisse penser qu'ils seraient mobilisés pour quelque chose. En plus, ils ont fait savoir à grand renfort dans les médias, et les médias autour de Nantes ou en Pays de la Loire, même en Bretagne, se prêtent pour certains très largement aux campagnes pro-aéroport. Donc ils font monter aussi la sauce, ils font monter l'angoisse. Donc bon, tout ça, ça a donné le fait que les habitants et les occupants, il faut savoir quand même que la ZAD, depuis plusieurs années, c'est devenu un lieu d'organisation collective où il y a plus de 60 lieux de vie, il y a plus de 200 personnes qui vivent en permanence, il y a l'agriculture qui se fait, il y a du pain qui commence avec la culture du blé, qui passe par une meunerie qui est sur la zone, qui se cuit deux fois par semaine. Il y a un espace qui s'appelle le non-marché hebdomadaire où tout le monde peut venir. Donc c'est un marché gratuit ou à prix libre. Il y a plein de choses qui se passent. C'est un lieu de vie, une expérience collective et sociale et politique assez inédite et vraiment tout à fait enthousiasmante. Donc faut pas croire non plus que c'est qu'une question d'opposition à l'aéroport. C'est aussi tout un espace de vie collective très intéressant qui est menacé aujourd'hui.
Et donc, mais c'est aussi ça du coup qui fait que Valls ne lâche pas. C'est pas juste la question de l'aéroport qui est en jeu, c'est effectivement une histoire de question de principe pour ces politiques-là qui de toute façon sont de farouches opposants, voire des farouches ennemis de ces tentatives alternatives de penser le monde et de le vivre, quoi.
Oui, là, c'est un affront permanent.
Et du coup, ne pas laisser pérenniser des lieux qui leur échappent complètement, quoi.
Trop subversif.
Sachant qu'en termes de pérennisation, au bout de quand même plus de 4 ans passés depuis 2012, qui a été un moment après lequel beaucoup de gens sont aussi intéressés et installés sur la zone, ont commencé à s'organiser avec un peu plus d'ampleur. Il y a notamment un texte en 6 points qui a été sorti il y a déjà presque 2 ans maintenant, qui a fait l'objet d'un long débat au sein du mouvement d'opposition. On peut voir que ce mouvement d'opposition, c'est à la fois les gens qui sont sur zone, les gens qui s'opposent à l'aéroport autour, des paysans qui ont encore des terres cultivables dont ils veulent pas voir bétonner. Des collectifs de paysans qui sont également en soutien dans notamment les pays de la Loire, mais aussi la Bretagne. Et donc c'est très très divers. Et, Et donc, c'est un espace qui est vraiment foisonnant et qui, au sein de a réussi à mettre en place un texte en 6 points qui disait, en gros, que lorsque le projet d'aéroport serait abandonné, puisqu'il compte vraiment que ce projet soit abandonné, il y aurait une reprise en main collective sur les 1650 hectares que représente la ZAD, de la gestion notamment du foncier, mais aussi des formes de vie et d'organisation collective, y compris dans les formes, non légalisées ou plutôt marginales, telles qu'elles existent actuellement, et de manière à ce que ça puisse se pérenniser. Et ça a été mis en place au sein d'une assemblée régulière qui réunit l'ensemble du mouvement d'opposition, et qui donc, du coup, ces 6 points, ils sont portés par tout le mouvement. Et quand on interroge les gens qui sont pris dans la lutte, parce que c'est une lutte qui est quand même vieille de 40 ans, qui a pris une tournure très différente depuis quelques années parce que l'opposition aussi a changé, et tout le monde dit en fait on veut pas que ça s'arrête, on veut pas que ce truc-là prenne fin, et on se laissera pas détruire. Et chacun a peut-être un peu ses raisons, mais tout le monde veut que cette expérience collective perdure.
Oui, et puis c'est un tel enjeu que... Du coup, là, si une expulsion, en tout cas une deuxième vague potentielle d'arrivée de flics en masse pour tenter d'expulser la zone devait comme ça arriver là dans les temps prochains, et c'est un tel enjeu qu'on peut gager qu'il y aura des milliers de personnes à débouler, soit dans les premiers temps, soit par vagues successives pour se remplacer et faire force comme ça avec des forces un peu fraîches et régulières comme ça, qui arrivent. Pour aller défendre cette zone-là en soi, ça devient emblématique au point où voilà, il peut y avoir des gens même qui déboulent d'Italie, d'Allemagne, de Grèce, de Belgique, d'Espagne, pour venir défendre cette zone-là aussi, quoi. Ils vont encore se fouer le doigt dans l'œil, moi, je pense. Hein. Ça va peut-être pas être facile, mais en tout cas, ils vont tout mettre en jeu pour essayer d'expulser, mais...
Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, justement, d'empêcher cette expulsion ?
On peut poser la question dans l'autre sens, est-ce que c'est possible de la faire ? Qu'est-ce que ça demande comme condition ? Moi j'ai entendu là, juste pour le chiffre, que apparemment 3000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour l'opération. En 2012 c'était 2000. Mais à quel point, à quoi sont prêts les aménageurs qui veulent quand même mettre en place un aéroport dont la pertinence est largement critiquée ? A minima, ceux qui sont même pas trop dans la critique disent qu'il faudrait le faire plus petit si jamais on le faisait quand même. Et donc ils s'accrochent à quelque chose. Et sur une zone où plein de gens, entre-temps, ont leur vie, leur terre, et sont prêts à faire barrage vraiment, et quelque part à cet endroit là les plus radicaux, c'est même pas ceux qu'on pourrait voir imaginer comme étant les plus radicaux avec des cagoules ou je sais pas quoi, c'est sans doute les paysans qui se mettront en travers avec leurs tracteurs et qui vraiment peuvent dire eux-mêmes que juste c'est aussi une question quelque part d'honneur. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme moyen? Est-ce qu'il faudra passer sur le corps des gens? À quoi est prêt l'État? Est-ce qu'ils sont prêts par exemple à balancer des militaires en armes? À un moment donné, ça veut dire quelque chose aussi dans une soi-disant démocratie que de balancer des militaires en armes pour reprendre une zone où les gens prétendent s'organiser par eux-mêmes et mettre en place des formes d'organisation directe qui sont peut-être même beaucoup plus démocratiques que tout ce qui peut exister comme système actuellement. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ça? Et à quoi ils sont prêts? Moi j'en sais rien. Mais j'ose croire qu'ils le feront pas. J'ose croire que s'ils le font, on sera capable de résister. Il y a plein de plans qui ont été mis en place. Il y a plein d'idées, il y a plein de soutiens autour qui sont prêts à s'organiser, et que ce soit sur place, on va dire, immédiatement autour, en Bretagne, donc ça fait déjà un peu plus long et un peu plus grand, et même dans tous les comités de soutien qui existent au niveau de la ZAD, il y a de toute façon un bazar monstrueux qui va être mis dans le pays si jamais ils tentent d'expulser la zone. Je sais pas.
Alors du coup, oui, ça, c'est un aspect quand même notable de tout ce qui se passe autour de la lutte contre cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est que ça a eu un grand écho en France, mais aussi ailleurs. Et on voit bien que quand il y a des gros appels à manifestation dans la région de Nantes, il y a des gens qui se déplacent de partout, j'ai envie de dire de l'Europe. Et il y a aussi des actions qui se passent en soutien dans d'autres endroits, comme il y a eu à Limoges, c'était l'année dernière.
Non, c'était au mois de janvier. Ouais.
C'était au mois de janvier.
On peut dire ça. C'était quoi? C'était le 9 janvier. Il y avait une grosse manifestation organisée sur Nantes, mais du coup ailleurs, dans plein de villes en France, quasiment dans tous les départements, dans toutes les préfectures, il y avait une manifestation en soutien pour les gens qui pouvaient pas se déplacer. Grosse manifestation de soutien aux paysans et habitants historiques de la zone qui qui était en procédure d'expulsion, enfin que AGO, à l'aéroport du Grand Ouest, amenait en procédure d'expulsion pour essayer de les virer. Il y avait des grosses menaces financières, les risques ça pouvait être que pour l'ensemble des personnes expulsables, ça pouvait se monter à 1000 euros d'amende jour s'ils restaient sur place malgré un avis d'expulsion. Ça n'a pas été le cas, hein, on n'en est pas là, donc les gens sont encore sur place, me semble-t-il, pour une bonne partie d'entre eux. En tout
même
cas,
si tout le monde est désormais illégal, les gens sont encore sur place.
Ils sont sur place, mais de façon illégale, effectivement. Ils sont quand même expulsables. Ils auraient dû être expulsés, ce n'est pas le cas. Et du coup, donc, il y avait cette grosse manifestation à Nantes, sur le périphérique nantais, qui a réuni, je ne sais pas, 20 à 30 000 personnes, au moins.
Plus de 30 000 selon les gens, ça peut être même 40 000. Mais,
Et donc plein de manifs en France. Une semaine après, il y avait encore des mobilisations en France, dont une à Limoges, donc le 16 janvier, un samedi. Ça devait être la fête à Vinci à Limoges.
C'était attaquer et Vinci au porte-monnaie.
Samedi, c'est la fête, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. L'idée, elle était que peu de temps avant, il avait été bloqué le périphérique nantais. Les actions de soutien dans leur ensemble étaient plutôt... Il y avait des manifestations, des mobilisations, mais il y avait aussi l'idée du blocage qui était un peu les talons posés comme ça par le mouvement à Nantes et autour de Nantes, à Notre-Dame. Et du coup, l'idée, c'était de faire, voilà, d'aller sur plutôt des choses de l'ordre du blocage, soit de péage, soit de parking, soit d'autres choses qui peuvent avoir des liens avec Vinci, quoi.
Deux petits mots sur Vinci, quand même, parce que j'ai entendu des gens même qui disaient Vinci. Hier, on a discuté là-dessus pendant la fête. Et donc ils ne savaient pas que Vinci, c'est pas Monsieur Vinci, il n'y a pas de Monsieur Vinci, c'est une entreprise multinationale qui a été créée par la fusion entre plusieurs multinationales au début des années 2000. Et si je ne me trompe pas, c'est le plus gros, ou en tout cas un des plus gros entrepreneurs du BTP au monde. Oui. Donc c'est, ils brassent des milliards et des milliards, ils ont, voilà, on connaît, hein, Parking Vinci, Vinci Autoroute. Et Vincent, il est content parce qu'il a son badge, etc. Vous voyez les pubs à la radio. Vinci, ils construisent aussi des prisons, ils construisent, oui. Voilà. Donc, c'est le genre de partenaires privilégiés des États à qui vont concéder. C'est une boîte qui a des moyens énormes.
Une des filiales connues, c'est Eurovia, qu'on voit un peu partout, qui construit, qui fait de la route.
Ouais, voilà. Et donc ils vont leur confier des chantiers gigantesques sur lesquels ces boîtes-là ont suffisamment d'argent pour pouvoir avancer l'argent et avancer et ensuite une concession ça peut être 50 ans par exemple, où ils auront les bénéfices de l'exploitation.
Le fameux partenariat public-privé
exactement.
Qui coûte extrêmement cher à l'État en redevance les loyers qu'ils vont avoir à payer, qui font qu'ils ont payé plusieurs fois l'investissement à la fin du cycle de remboursement, quoi.
Oui, en même temps, comme l'État et comme les fonctionnaires d'État et les éventuels grands employés de chez Vinci peuvent être plus ou moins les mêmes, ces gens-là sont formés aux mêmes endroits. Enfin, on peut quand même, c'est ça parce qu'on peut rappeler que l'ex-préfet de Nantes, enfin de Loire-Atlantique, et marche maintenant pour Vinci, bosse pour eux, c'est-à-dire qu'il a été remercié pour ses services, ses bons services. Mais genre très peu de temps après, c'était même pas caché, même pas vraiment lousdé, quoi. Ça a été découvert assez vite, je crois qu'un an et quelques après être parti de la préfecture, il s'est retrouvé à être embauché à un haut poste pour Vinci, quoi. Donc bon, tout ça c'est... Voilà,
voilà, c'était pour préciser un peu de quel genre d'entreprise on parle. Et donc
ce jour-là.
Donc il y a une manifestation le 16 janvier à Limoges, toujours en soutien à ces paysans expulsables.
Et occupants.
Pardon ?
Paysans occupants.
Et toujours occupants, oui. Et du coup, il y a eu une manifestation, déambulation dans Limoges, qui est partie de la place d'Aisne, là où il y avait l'ancien tribunal, qui maintenant n'est plus le tribunal d'instance de Limoges. Et partie donc dans Limoges, et revenue sur ce même parking, qui est donc un parking Indigo avec dont Vinci est un des actionnaires principaux, c'est même lui qui a créé et qui a construit le parking à l'origine. Et donc l'idée était de débloquer le parking en quelque sorte, de le rendre gratuit pour les personnes qui allaient vouloir l'utiliser ce jour-là, quoi. Ça s'est plutôt bien passé dans un premier temps. Il y avait du café et du thé qui étaient servis aussi aux gens qui venaient, les bornes automatiques étaient entourées de scotch pour éviter que du coup les gens aient à payer et se posent la question de payer. Il aurait été annoncé que c'était un parking gratuit.
Une barrière qui était levée à la sortie aussi.
Voilà, donc la barrière était levée.
Les gens étaient invités à sortir.
Il y avait ça, quelques personnes sont autorisées à colorier un peu les murs gris du parking, parce que bon, effectivement, c'est, voilà, après c'est un parking souterrain, une espèce de... Enfin bon, en tout cas, un peu de peinture pour égayer un peu l'espace faisait pas de mal. Et à un moment, donc, déboulent 4 policiers de la BAC qui viennent sonner la fin de cette manifestation, bien malgré nous, et qui du coup tentent d'arrêter une personne qui sera assez vite récupérée et qui arrivera à se libérer des maillons, enfin des chaînes de la police. Et une autre personne va se retrouver à se faire interpeller une première fois, puis sortir des griffes des flics, et ensuite se faire interpeller et passer 48 heures en garde à vue. En l'occurrence, moi, pardon.
Et du coup... oui, après, ça a mis fin à la manifestation.
Ça a mis fin à la manifestation. Les gens se sont organisés pour moi qui étais interpellé, et puis organisés aussi pour cette personne qui devait partir et qui avait été une première fois interpellée. Et puis la solidarité s'est organisée à l'extérieur assez rapidement. La manifestation a pris fin, et effectivement, ça a été un peu speed avec les policiers à ce moment-là. Donc oui, l'opération parking gratuit s'est terminée à ce moment-là, de fait.
Donc garde à vue.
Garde à vue de 48 heures. Bon, un truc un peu pénible, mais voilà. Je refuse de donner mon ADN à l'intérieur de à ce moment de garde à vue. Les flics viennent me voir hein, gentiment, courtoisement, pour me demander si je consens à donner mon ADN, ce que je refuse. Et ils me précisent que c'est un délit, je le sais, donc je maintiens mon refus. Je suis convoqué ensuite au tribunal le 23 juin pour les faits suivants. Dégradation simple, donc on m'accuse d'avoir fait un ou des tags. Rébellion. Bon, du coup là je suis accusé d'avoir m'être autorisé à résister à mon arrestation, incitation à la rébellion, donc j'aurais incité des gens à résister à la police et essayer de libérer les gens qui étaient éventuellement interpellés, et refus de prélèvements signalétiques, à savoir les prélèvements papillaires, enfin digitaux,
digital,
les
ouais.
doigts quoi, photos et ADN. Le 23 juin, ça ne va pas être jugé parce que pour la partie concernant le refus de prélèvement ADN, il faut une collégiale, donc 3 juges, un président et ses 2 assesseurs. Et là, il n'y avait qu'un juge unique qui pouvait juger effectivement le reste des qualifications, pas condamnation à ce moment-là encore.
Des inculpations. Une sorte de vice de forme qui fait que tu ne peux pas être jugé ce jour-là.
Du coup, à ce moment-là, Vinci ne s'est pas porté partie civile. Il n'est pas présent ni par le biais d'un avocat, ni par le biais d'un courrier qu'ils auraient pu envoyer. Et donc la convocation, enfin ce moment-là, est renvoyé au 6 septembre. Je ne vais pas décrire exactement, l'ambiance qui règne dans le tribunal, mais quand même, il y a un truc qui se joue avec la juge qui fait qu'on voit bien qu'elle se place à un endroit de l'échiquier politique qui est qu'on manifeste, on a le droit de manifester, hein, c'est pas un souci, mais dans les clous, quoi. Et dès lors qu'on déborderait des formes ordinaires de la manifestation sclérosée, et on est déjà hors la loi, quoi, pour elle. Ça sentait directement dans son discours, elle était assez moraliste.
Dans sa façon. Morale, ouais.
Voilà. Elle a voulu jouer à ça. Et du coup... le procureur demandait quelque chose comme 8 mois de prison avec sursis pour l'ensemble des faits sauf le prélèvement ADN, le refus de prélèvement ADN, 3 mois de plus je crois, ou 2 mois de plus de prison avec sursis simple pour le refus de prélèvement ADN, 2 fois 400 euros pour les 3 policiers qui se sont portés partie civile pour les histoires de rébellion, d'incitation à la rébellion pour, au titre de dommages et intérêts, parce que c'était un moment difficile et ça, en tout cas ils l'auraient vécu comme ça.
Ils ont dû être traumatisés.
C'est énorme. Je pense que c'est. En plus, dans l'ordinaire de leur métier, c'est quelque chose qui vivent souvent.
Tous les jours d'être traumatisés.
Et du coup. Et par ailleurs, ils demandaient. 24 000 euros, qui était l'ensemble de la somme réclamée par Vinci pour les dégradations, l'ensemble des dégradations sur le parking. Enfin, les dégradations estimées, hein, c'est-à-dire de la peinture, les bornes automatiques, et puis la barrière qui avait été soulevée, enfin qui a été légèrement démontée pour pouvoir la maintenir en l'air. Il demandait ça, plus 3 ans d'interdiction de manifester à Limoges, ce qui devient un truc un peu classique.
Dans
les condamnations. Ouais, dans les condamnations. Et des gens qui sont sur la mobilisation autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de son refus. Et les gens, dernièrement, là, sur le mouvement social, toujours en cours, qui du coup sont fait arrêter là, enfin les nombreuses personnes qui se sont fait arrêter dans ce mouvement social, qui du coup se retrouvent avec pas mal d'interdictions de manifestations ou de territoire, de ville ou de département, voire de région pour certaines personnes quoi.
Donc ça c'était le réquisitoire du procureur.
Réquisitoire du procureur et du coup le résultat, le délibéré a donné que je me suis retrouvé à avoir 3 mois de prison avec sursis simple donc pour l'ensemble des incriminations sauf le prélèvement de l'ADN, 1 mois de plus pour le refus de prélèvement ADN, 350 € pour les trois chacun pour les trois policiers,
ce qui fait 1050 euros
plus 17 329,20 pour les peintures, la réfection des murs pour Vinci pour le parking. Et donc eux ils sont partis partie civile la veille pour le lendemain. Ils étaient donc présents voilà comme ça sans avocat. Mais et sur le simple sur un simple devis de peinture présenté, non, ils n'avaient pas besoin d'avocat du tout quoi, en aucun cas. Et sur un simple devis présenté, un devis d'une entreprise de peinture qui donc pas une expertise, hein, qui a juste dit ok ça devrait coûter ça en fait l'ensemble des travaux. Sur ce simple devis, la justice a décidé que voilà, elle s'est appuyée là-dessus quoi. Du coup, je conteste ça clairement les condamnations dans son ensemble, hein, et mais particulièrement ces 17 329,20 €, et, parce qu'on me fait porter l'ensemble des dégradations, et alors que j'ai assumé devant le tribunal avoir fait un tag, sans trouver ça absolument extraordinaire comme acte politique, mais ni non plus honteux.
T'as écrit quoi,
hein.
Z partout ?
Non, j'ai dû écrire Vinci dégage ou une connerie comme ça. Et du coup, voilà, on me fait payer l'ensemble des taxes, ce qui fait quand même une jolie somme. En tout cas, on veut me faire payer l'ensemble des taxes.
Donc ça, c'est une stratégie de la justice, de quand ils chopent quelqu'un, de pouvoir faire... prendre un peu ça comme exemple et de faire que la personne qui est... devant eux individuellement, elle écope pour tout le collectif, quoi.
Ouais, c'est ça leur idée en tout cas.
La responsabilité collective par rapport, la responsabilité individuelle par rapport à des actes qui ont été faits collectivement en manifestation, ça a existé dans le droit français. Ça s'appelle la loi anti-casseurs. Ça a été abrogé dans les années 80. Et cette question-là, elle est plus censée être d'actualité et fort heureusement, on va pas. Si tu prends un graffeur qui est chopé sous un pont en train de faire un graffe, on va pas lui faire payer la réfection du pont. On va lui parler de son graphe, pas de suite de tous les autres qui l'ont précédé. Donc il y a une absurdité à ce niveau-là. Au-delà même, enfin, sans parler de ce qu'il peut y avoir comme coup de semonce et coup de pression et petite vengeance d'État condamner aussi lourdement quelqu'un qui reconnaît avoir fait un tag lors d'une action collective dans laquelle il y a eu, enfin, tout s'est bien passé. Et oui, on peut reconnaître évidemment qu'il y a eu des tags qui ont été faits, ça c'est pas, ou des barrières qui ont été levées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est quelque chose de complètement qui relève vraiment de la vengeance.
Il y a d'autres cas comme ça, effectivement, dans le contexte actuel de condamnation pécuniaire assez complètement hors de proportion par rapport aux actes qui viseraient à dissuader tout type de contestation hors des clous, comme tu l'as dit.
Bah, y a, je sais, en termes de coûts, moi je sais pas précisément, j'ai pas d'éléments là-dessus. Pour les taggers, oui, c'est arrivé. Hein. Pour des gens qui le font soit de manière contestataire ou artistique, pas forcément inscrits dans un mouvement social tel qu'on a pu les connaître ces derniers temps, mais en tout cas qui contestent quelque chose de fait comme ça. Il y a un mec qui s'appelle Azil qui signait ça, qui signait AZIL sur les métros parisiens, qui s'était retrouvé avec. Plus de 195 000 euros de dommages et intérêts à devoir à la RATP. Bon, lui, il est allé sur un terrain où il contestait pas le fait d'avoir fait des tags. De fait, c'est une signature en plus, donc il avait des difficultés à pouvoir s'y soustraire. Mais il a mis en avant le fait que ça ne coûtait pas ce prix-là, en fait, de nettoyer ces tags. Et il a fait une démonstration en appel devant le tribunal en prenant une plaque de métro et en montrant avec les mêmes produits utilisés par les personnels de la RATP que ça prenait 5 minutes en fait et pas une bonne heure qui était chiffrée par la RATP quoi. Donc il s'est retrouvé passer de la somme de 195 000 euros à 40 000 euros. Donc c'était une somme qui est toujours importante, hein. Mais il a réussi à montrer qu'il y avait effectivement un abus, voilà. Il y a des gens qui s'étaient fait aussi condamner à des fortes sommes parce qu'ils auraient cassé des sucettes publicitaires, en tout cas abribus de chez JC Deco. Et là encore, là, il y avait une surfacturation, c'est-à-dire que ils pouvaient jouer sur le matériel, mais aussi sur le taux horaire que ça pouvait coûter pour leurs salariés. Et là, d'après l'avocat qui avait défendu ces personnes-là, ça se montait à un équivalent salaire de 4000 euros net par mois, ce qui n'est pas du tout la paye des personnes de l'entretien de Deco, quoi, évidemment. Ils sont plutôt payés autour de 1500 euros que 4000 euros.
Petit intermède.
Un intermède, oui. À autre intermède, tout à l'heure, quelqu'un m'a soufflé dans l'oreille que les gendarmes étaient du côté du carrefour de Gensioux et qu'ils faisaient des contrôles d'alcoolémie, donc sachez-le, voilà.
Mais plus généralement, par rapport à ta question, sur au-delà des questions de condamnation pécuniaire, on va dire, moi j'ai l'impression que ce qu'ils cherchent à se passer maintenant de la part du gouvernement, c'est une sorte de message. C'est une sorte de message qui concernerait tout le monde. Parce qu'on peut voir, sans parler de condamnation pécuniaire encore une fois, mais par contre, soit des condamnations très lourdes pour des faits qui sont vraiment bénins, soit des nouvelles formes de condamnation qui étaient encore, disons, relativement inédites, relativement rares en France et qui deviennent de plus en plus importantes. Alors, des exemples comme ça, j'ai croisé un type de Caen qui s'est fait arrêter pour avoir, pendant le mouvement loi travail, balancé quelque chose comme, je dirais, une canette vide. Je crois que c'était ça, une canette en alu vide en direction des forces de l'ordre. Quand je l'ai croisé, il sortait de 3 mois de prison ferme. Un exemple. Un autre exemple, c'est des flics récemment à Rennes qui déboulent à 5h du matin en défonçant la porte de l'appartement au pied de biche pour arrêter 3 personnes qui étaient accusées pour 2 d'entre elles d'avoir fait des tags et pour la troisième d'avoir participé au blocage d'un engin de paiement du métro. Donc c'est il y a un message qui se passe, c'est
Attends, ils ont déboulé, mais ils ont été condamnés à du ferme aussi, me semble-t-il.
Ils ont été, ceux qui se sont fait arrêter l'autre jour, là, ils ont été interpellés, donc 5h du matin au pied de biche, pour défoncer la porte de l'appartement. Et ils ont fait 48 heures de garde à vue, et ils sont ressortis avec une interdiction de manifester sur Rennes jusqu'à la fin de l'état d'urgence, donc c'est-à-dire peut-être jusqu'à la fin des temps, je sais pas, hein, c'est possible. Et par rapport à la question de la ZAD, toute manifestation en lien avec la ZAD, ils sont interdits de la faire aussi. Donc, y compris si c'est sur Nantes ou sur la ZAD. Donc il y a un ciblage, et je parlais de message, c'est en gros le genre de manifestation que le gouvernement voudrait nous voir faire, c'est celle, je crois que c'était le 29 juin à Paris, l'espèce de tour absurde aux Invalides là, où ils ont fait le tour du plan d'eau, encadré par des milliers de flics c'est pas les Invalides. Voilà, le bassin de l'Arsenal, cette manifestation de la fin du mois de juin, a priori ce qui devrait autoriser maintenant c'est à peu près ça, et tout ce qui sort des clous, vous devez avoir peur, vous devez craindre d'être soit assigné à résidence, ou en tout cas interdit de manifestation, forcé à pointer 2 fois par jour ou 1 fois par jour, selon les bons vouloirs du procureur, ou prendre des mois de prison ferme ou des mois de prison avec sursis, un bracelet électronique, des choses comme ça, pour des actes qui, en général, relèvent juste de quelque chose qui ne serait pas une manifestation plan-plan, un simple défilé, qui seront juste allés un petit peu plus loin que ça, et par ailleurs, parce qu'on peut que constater que les formes de... En gros, c'est pas à l'État sur qui on veut faire pression de nous dire comment il faut faire pression sur lui. Quand on manifeste, c'est pour manifester quelque chose, notamment une colère, notamment une rage. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de frapper très fort sur tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et donc, tout à l'heure, tu disais que tu contestais la décision du juge. Donc, ça veut dire que tu vas faire appel.
Oui, l'appel a été déposé sur l'ensemble, sur le pénal et le civil. C'est-à-dire donc sur les condamnations de prison avec sursis et sur les dommages et intérêts et pour les policiers et pour Vinci. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de date, il n'y a rien qui dit quand est-ce que ça va se passer, mais il va y avoir une mobilisation autour de ce moment-là qui
oui,
va
s'organiser. J'imagine que pour ce qui est des suites, je dis vous parce que c'est plutôt le collectif oui. Autour de cette action-là, imagine que ce n'est pas seulement par le biais de la justice que les choses vont avancer et qu'il faut continuer sur le terrain des luttes.
Oui, de toute façon, c'est ça. Enfin, c'est ça, la meilleure réponse, c'est celle-ci de toute façon. Ça veut dire que pas lâcher ce terrain-là alors qu'il y a une menace judiciaire, et c'est déjà c'est la meilleure réponse à apporter. Enfin, on voit bien qu'il y a une contradiction dans les propos des procureurs et du juge. La juge me dit, et le procureur aussi, vous avez le droit de manifester, mais pas dans ces conditions-là. Et le procureur aurait envie, même si ça n'a pas été validé dans le délibéré, aurait envie que je sois interdit de manifester pendant 3 ans sur Limoges. Et on voit bien qu'il y a un truc qui est déconnant. Oui, vous avez le droit, c'est un exercice démocratique que vous pouvez faire. Cependant, on aimerait bien que, vu les formes que vous posez, vous ne puissiez pas être présent dans ces espaces-là, quoi. Dans lesquels ils ne vont pas évidemment non plus. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas. D'ailleurs, je ne souhaite pas les y croiser, pour être honnête. Mais il y a une espèce de contradiction à cet endroit-là. Donc, il faut, voilà, pas lâcher la rue, pas lâcher les mobilisations pour autant, quoi. Et du coup, oui, là, dans le cadre de l'expulsion potentielle de Notre-Dame-des-Landes, depuis ici, comme depuis plein d'endroits, il faut appeler à bloquer, à se mobiliser, par tous les moyens, bloquer Vinci, ici, ailleurs et partout.
Je voulais juste rajouter autre chose qui me venait en tête, c'est qu'il y a 5 personnes qui ont été également arrêtées à Limoges récemment, là,
ah oui.
Dans la nuit du 14 au 15 septembre, donc la veille de la manifestation contre la loi travail, de la reprise du mouvement social après l'été. Ils avaient fait des tags sur différents bâtiments, édifices, en préparation sur le parcours de la manifestation, en fait, pour voilà, marquer le passage. Et donc ils ont été interpellés et placés en garde à vue. Et ce qui est notoire là-dedans, c'est que l'enquête est restée ouverte. L'enquête est restée ouverte, notamment parce que le procureur a relevé qu'ils avaient écrit ZAD partout quelque part. Donc il y a bien un lien avec la ZAD aussi. Et que du coup ça fait deux des personnes potentiellement suspectes. Que par ailleurs, alors disons que je reprends à mon compte le récit policier, c'est pas pour autant que je veux du tout incriminer les camarades, mais il se trouve qu'il y a eu des actions de sabotage de machines appartenant à une succursale de Vinci qu'on a déjà cité, c'est Eurovia, en Limousin ces derniers temps, et que du coup l'enquête est également ouverte pour continuer à voir si des personnes qui ont été arrêtées pour les tags l'autre jour ne seraient pas également liées aux actions de dégradation et d'incendie des véhicules Eurovia qui ont eu lieu en Limousin depuis quelques mois. Voilà, donc ça c'est bien de préciser ça, qu'il y a cette question de mettre les gens sous pression, ouvrir un truc, et même si on n'a aucun élément, alors je précise aussi qu'il y a deux ordinateurs qui ont été saisis, ils débarquent, perquisition à la maison, ils embarquent les ordis, les personnes qui avaient leurs documents personnels et leurs études et leurs cours de la fac dessus, on ne peut pas dire qu'elles sont pas emmerdées maintenant. Donc reste pas de date de procès, juste une enquête ouverte et ce sentiment qui va rester permanent pour quelques personnes là, que quoi que tu fasses, il va y avoir une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête et que ça va rentrer dans le compte d'une sorte d'enquête qui n'est pas non plus sans lien avec ce qui a été légalisé l'an dernier, à savoir la légalisation de l'utilisation judiciaire des notes blanches des services de renseignement. Donc tout ça, c'est quand même un contexte social répressif, un contexte répressif qui est vraiment très inquiétant. Quoi.
Peut-être faut être plus précis sur les notes blanches, parce que je...
Sur les notes blanches, ouais. C'est simplement que les services de renseignement travaillent sur le plateau, on a parfois l'occasion de s'en rendre compte, et que du coup ils se font des petits récits. C'est assez marrant de voir le storytelling policier, la manière dont ils se racontent des histoires, c'est-à-dire qu'ils vont prélever une information ici, ils vont prélever une autre information là, et puis après, c'est une troisième personne qui va exploiter les deux informations, et qui forcément, vu que c'est ces deux informations, il faut faire un lien entre les deux, elle va inventer une histoire, et des fois qui sera plus ou moins proche de la réalité. Et donc en tout cas, ça produit des récits de vie sur les personnes qui sont fichées comme étant un peu trop actives en tant que militants ou militantes. Et donc ça produit des récits de vie qui circulent parmi les services de renseignement et qui à un moment donné peuvent devenir opposables juridiquement depuis l'an dernier. C'est-à-dire que les services de renseignement pourront passer leurs notes au juge, au procureur je sais pas, mais au juge c'est sûr, et par contre la défense n'y a pas accès.
Ah oui.
Et donc là-dessus, il faudra se défendre en fonction d'éléments dont on ne sait pas ce que les agents du renseignement français ont raconté sur vous. Donc c'est aussi quelque chose qui est en vigueur déjà, d'ores et déjà, donc, qui va dans le cadre de la situation qui se resserre dont je parlais tout à l'heure.
Ok.
Donc là-dedans, l'envie c'est de ne pas se laisser faire, évidemment. L'envie c'est de faire une mobilisation qui, juste les 17 000 euros, c'est pas la peine, il n'y a pas moyen. Le principe même de se voir condamné, enfin 3 fois 350 euros pour s'être libéré de l'emprise des flics, c'est pareil, c'est du foutage de gueule. Eux, on sait très bien qu'ils arrondissent leur fin de mois en faisant des plaintes à gogo pour récupérer du fric, voilà, en complément de leur salaire. La question de refus d'ADN, c'est encore un autre enjeu politiquement. Peut-être tu veux plus en parler, Camille, mais pourquoi t'as refusé toi, mais... C'est une vieille histoire déjà.
Oui, assez basiquement, d'abord en soi l'ADN pour moi ne constitue pas une véritable preuve et on peut le remettre en question assez facilement, régulièrement, même scientifiquement quoi. Mais ça c'est pas forcément le premier élément, l'élément simple, il est que pour ce genre de fait, même pour n'importe quel fait, j'ai pas envie de me retrouver à être fiché et avoir mon ADN disponible pour les flics et la justice et pourquoi pas les services de renseignement en tant qu'affaire quoi. Donc ça, je me refuse à le donner, simplement pour ça, c'est assez basique. Hein. Et puis par principe, en fait, voilà, je vais pas...
Voilà. Donc là, l'idée actuellement, c'est de parler de ça, et merci de nous avoir invités. Sur la question de la ZAD, peut-être, je sais pas si on y reviendra, mais en tout cas...
C'est fort possible.
C'était bien aussi d'avoir quelques minutes. Et donc, de s'organiser collectivement, en soutien aux camarades qui a été condamné en première instance et dont on espère bien que ça va se passer beaucoup mieux à l'appel. Et surtout aussi de voir comment c'est possible collectivement de penser des formes de réaction où on ne se laisse pas faire en fait par des condamnations qui prennent chacun individuellement pour finir par soit tenter de lui faire peur, tenter de l'isoler, tenter de lui mettre une pression avec différents moyens, différents outils. Et donc avoir des formes d'autodéfense sur le plan juridique, des formes de soutien sur le plan financier aussi pour payer les avocats, des formes de publicisation de ce qui se passe pour qu'éventuellement également, je sais que c'est quelque chose qui est dans l'air aussi, des personnes qui se retrouveraient toutes une par une avec des condamnations pour une activité politique puissent s'organiser ensemble et avec un nombre de soutiens pour que ça finisse par être visible. Parce que si on s'en tient à ce que nous racontent les grands médias, etc., on a juste l'impression que. On pourrait juste avoir l'impression que c'est une révolte qui prend pas les bonnes formes, et qui du coup mérite d'être calmée. Au fond, ce qu'on peut constater, c'est juste qu'on n'a plus le droit de bouger, qu'on n'a plus le droit de rien faire, et qu'il y a un espèce de système qui avance comme un rouleau compresseur, et que si tu essaies de lever le petit doigt, tu vas juste te faire rouler sur le petit doigt. Et donc il faut s'organiser par rapport à ça.
Antoine et Camille, on vous remercie d'être venus.
Merci à vous.
Et on continuera à donner des nouvelles de la lutte autour de l'aéroport sur Radio Vassivière dans les prochains temps.
La fête de la montagne Limousine s'est bel et bien terminée, mais ses condamnations sont toujours d'actualité, ainsi que les travaux inutiles, les grands projets inutiles. C'est pourquoi nous vous rappelons que la soirée de soutien aux Camilles et Camilles est organisée ce vendredi 9 décembre à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne, où vous pouvez vous rendre à partir de 19h pour y danser jusqu'au bout de la nuit sur 4 groupes très très différents qui vous proposeront des musiques très éclectiques mais sur lesquelles il fera toujours bon de danser.